Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Jean-Luc Chrétien, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes professeur de philosophie à Paris 4, Sorbonne, et vous poursuivez depuis presque 30 ans, depuis Lueur du secret en 85, une œuvre que je considère comme magnifique et singulière, et qui explore de mille manières différentes les résonances de la parole en nous, de la parole et du beau, de la parole qui nous forme et nous ouvre à nous-mêmes, du beau qui nous saisit d'effroi, et c'était le thème d'un de vos livres, « L'effroi du beau » paru au CERF en 2008 pour la troisième édition. Nous avions eu la chance de vous recevoir ici même, donc en 2008, pour votre livre « Répondre » paru au PUF en 2007, et vous nous aviez effectivement en particulier dit quel était le combat de la parole avec la vérité, donc combat qui s'assimile ou que vous assimilez ou que vous faites entrer en résonance avec celui, le combat donc de Jacob avec l'ange. Donc nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui à nouveau pour deux livres, donc Conscience et Roman 1, paru en 2009 avec comme sous-titre La conscience au grand jour et Conscience et Roman 2, La conscience à mi-voix, paru en 2011, donc en tout 600 pages sur le roman moderne, ce que le roman moderne dit de la conscience et cette prétention du roman moderne à ouvrir effectivement la conscience et de regarder ce qu'il en est. Alors, vous partez d'un constat qui est, disons en quelque sorte, l'effroi de Madame de Staël que vous citez au début de votre livre, et je cite Madame de Staël, « Les anciens n'auraient jamais fait ainsi de leur âme un sujet de fiction. » Il leur restait un sanctuaire où même leur propre regard aurait craint de pénétrer. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que l'effroi de Madame de Staël vous semble pertinent et en quoi est-ce que le roman moderne, celui que vous étudiez, ouvre des perspectives nouvelles et inédites sur la conscience mise à jour ?
D'abord, je voudrais peut-être indiquer la naissance de ce projet même qui m'a occupé pendant plusieurs années et qui a été un travail fort ardu et long, mais aussi extrêmement rempli de joie et très beau pour moi. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années et par un certain nombre de mes travaux, moi qui suis avant tout philosophe, n'est-ce pas, et historien de la pensée, mais ma particularité étant d'essayer d'envisager l'histoire des thèmes, des problèmes, des questions sur une très longue durée, n'est-ce pas ? Dans un âge de spécialisation extrême, en particulier en histoire de la philosophie, où les gens sont spécialistes non plus même d'un siècle, comme c'était autrefois, mais d'une partie d'un siècle ou d'un auteur unique ou d'une partie d'un auteur unique. Il y a des choses qu'on ne voit et qu'on ne peut aussi analyser quant à l'essentiel que lorsqu'on envisage leur situation dans l'histoire de notre civilisation et l'histoire de la philosophie et de la religion aussi dans son ensemble. Alors donc j'étais en train de travailler par mon livre symbolique du corps et par un ouvrage que j'avais en projet et que je suis en train de finir à l'heure actuelle, à une réflexion à la fois historique et philosophique sur les différents modèles de l'intériorité humaine, de l'intériorité psychique et spirituelle et donc aussi de l'identité humaine à travers le temps dans notre histoire. Et puis là, tout à coup, il serait prétentieux de dire que ce fut comme une sorte d'illumination, mais en tout cas, c'est une idée qui m'a tout à coup traversé l'esprit en me promenant au bord de la mer. Comme j'étudiais plutôt des textes médiévaux et prémodernes, je me suis dit, et si on prenait les choses d'un autre côté ? Si j'abordais ces mêmes questions, mais depuis une autre rive du temps, et depuis la modernité jusqu'à la contemporanéité. Et là, j'ai tout de suite eu l'idée, non pas d'étudier des thèses philosophiques sur l'identité, ou si importante soit-elle, mais d'étudier un lieu essentiel de l'identité moderne, des représentations modernes de l'identité, et donc de la subjectivité, subjectivité qui est un terme et un concept très récent, même si d'une manière égocentrique et faussée, nous projetons sur l'ensemble de l'histoire, n'est-ce pas ? Il y a toujours eu une différence entre un dedans et un dehors. Il y a toujours eu une intériorité humaine, un espace du dedans, qui peut être représenté de différentes façons, mais jamais il ne s'est appelé sujet ni subjectivité avant une histoire qui est très récente, puisque, enfin très récente au moins à mon échelle, puisqu'elle a juste un peu plus de 2 siècles, n'est-ce pas ? Et je cite dans mon ouvrage un propos d'un ami du grand romancier Henry James, qui dit « Il n'a jamais existé d'époque, enfin lui il parle à la fin du XIXe siècle, où le roman constitua l'ensemble de la culture intellectuelle de beaucoup de gens. » C'est-à-dire que les chansons de geste ou les romans picaresques, enfin, n'ont pas eu aussi grande importance dans la civilisation où elles figuraient, tant elles étaient en quelque sorte la reproduction ou le miroir. Ni les chansons de geste, ni les romans picaresques ne prétendaient apporter une nouvelle vision du monde. Tandis que le roman du 19e et du 20e siècle, outre son immense développement, son immense variété, joue un rôle fondamental. C'est-à-dire que il est un élément considérable de notre expérience du monde, notre rapport à autrui et notre rapport à nous-mêmes, tout autant que des ouvrages de philosophie, surtout qu'ils sont moins lus par l'ensemble de la population, évidemment, que les romans.
Et alors, quid de l'interrogation de Madame de Staël ?
Ce qu'il y a de vraiment décisif, c'est que jamais avant le roman moderne, disons qui commence à la deuxième moitié du XIXe siècle et qui prend son envol définitif au XIXe siècle, jamais dans toute l'histoire de la littérature, on a prétendu entrer dans l'intimité de la conscience d'autrui, dans les moindres recoins de ce que nous vivons et sentons, y compris dans ce que autrui ne sait pas de lui-même, y compris dans ce que autrui ne perçoit pas de lui-même, que dans le roman moderne, dont c'est en quelque sorte le projet fondamental, le projet foncier. C'est ça qui caractérise d'abord par rapport à toute littérature antérieure, que ce soit la tragédie grecque, les chansons de geste, le roman antérieur. Et c'est un projet en quelque sorte commun qui a été mon fil conducteur.
Alors, dites-moi, comment en sommes-nous arrivés là ? Comment ces romans modernes, ceux que vous étudiez, sont-ils apparus ? Y a-t-il une origine chrétienne de cette nouveauté ?
Alors, pour voir qu'est-ce qui s'est passé ? Ma question, c'est que s'est-il passé ? Quel est le sens de ce qui s'est passé ? Et non pas de faire une genèse du roman moderne. Il y a de nombreux travaux historiques dans différents pays, d'ailleurs, dont certains excellents, j'en cite quelques-uns, sur comment le roman moderne est-il apparu, comment s'est-il constitué. Mais alors, c'est une question que je trouve incertaine et trop complexe. Je veux dire qu'on peut faire là-dessus toutes sortes d'hypothèses, qui sont des hypothèses passionnantes, qui relèvent à la fois de l'histoire sociale, le développement de l'individualisme, de l'histoire religieuse, de l'histoire des pratiques, le journal intime, etc. Mais disons que ça aboutit à des hypothèses très convaincantes, mais sur lesquelles on ne peut pas obtenir de vérité définitive ni de consensus. Donc, pourquoi est-il apparu ? Je laisse cette question, sinon que je soutiens qu'à long terme et à longue durée, il y a des sources chrétiennes. Ce n'est pas un hasard que ce type de roman, il y a des romans chinois, n'est-ce pas ? Il peut y avoir des romans dans d'autres civilisations, mais aucun ne présente ces caractéristiques qui ont été les nôtres à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc, à longue durée, à long terme, comme fondement très généraux, il a des conditions chrétiennes que je dégage, le fait que n'importe quel homme, finalement, a autant d'intérêt qu'un autre, n'est-ce pas, quand on considère que devant Dieu, les catégories sociales s'effacent, le fait que dans les gestes de la vie quotidienne, n'importe quel geste peut être important ou grave, n'est-ce pas, même donner un verre d'eau, c'est un exemple scripturaire, à quelqu'un peut décider, finalement, de mon salut ou de ma perte, etc. Donc des conditions très générales, mais qui évidemment ne produisent pas d'elles-mêmes le roman comme forme littéraire. Toutes ces données chrétiennes que j'établis sont des conditions du roman moderne et non pas ses causes. Il y en a d'autres. Sinon, il y aurait eu des romans dès que le christianisme était apparu, ce qui n'est pas le cas. Hein.
Devant cette nouveauté du roman, que dire de cette nouvelle science du cœur et d'un cœur mis à jour.
Alors, donc là, nous avons quelque chose de tout à fait fondamental, et devant des questions si vastes, quel changement dans le rapport de l'homme à sa propre conscience et à la conscience d'autrui le roman introduit-il? Comment nous fait-il envisager précisément cette intimité de la conscience qui n'est accessible qu'à Dieu? Alors, pour résoudre cette question, on ne peut pas se contenter de généralité et de propos qu'on ne peut ni réfuter ni prouver, mais il faut une étude précise. Alors, j'ai formé un néologisme, ce qui n'est pas dans mes habitudes, celui de cardiognosie, qui signifie précisément la connaissance du cœur au sens biblique, c'est-à-dire de l'intimité de la personne, cette connaissance du cœur en transparence. Je ne vous apprends pas qu'il est très courant de parler de l'omniscience du narrateur. Mais voyez, le terme d'omniscience est un terme extrêmement vague, parce qu'il ne précise pas l'objet de cette omniscience. Exemple, quand un romancier du XIXe siècle nous décrit ce qui se passe simultanément dans plusieurs endroits du monde. Alors effectivement, dans cette époque, c'est une impossibilité de fait, mais nous savons maintenant que ce n'est pas une impossibilité de droit, impossible à l'homme et à sa finitude, puisque les communications modernes font que je pourrais voir sur un écran plusieurs événements simultanés, n'est-ce pas? Donc là, c'est des impossibilités provisoires. On ne se prend pas littéralement pour Dieu en décrivant ce qui se passe en plusieurs endroits du monde au même moment, puisque de fait, maintenant, nous pouvons le faire sans nous être divinisés. En revanche, connaître en transparence ce qui se passe dans la conscience d'un autre, au-delà de ses paroles, de ses gestes, de ses expressions et de ce que je peux savoir factuellement sur lui, là, c'est quelque chose de strictement impossible. Et c'est une omniscience qui ne peut appartenir qu'à Dieu, compose ou non son existence, n'est-ce pas? On peut croire que c'est radicalement impossible, mais que si un Dieu existait, alors lui seul pourrait le faire, mais l'homme jamais. Or, le romancier se donne précisément cette faculté d'entrer dans toutes sortes de consciences, comme dans un moulin, d'y circuler, d'où le titre de mon premier tome, La conscience au grand jour, n'est-ce pas? Elle nous devient manifeste, transparente.
Comment s'y prendre, justement, selon vous, pour explorer cette nouvelle clarté? Quelle fut votre méthode d'analyse? Pourquoi avoir séparé cette analyse en deux volumes différents?
Comment s'y prendre? Parce que le domaine du roman moderne... Voyez, par exemple, en 1800 ou 1810, quelqu'un aurait pu, un critique, il aurait pu lire tous les romans qui étaient parus cette année-là. Aujourd'hui, c'est impossible, n'est-ce pas? Il y a des milliers et des milliers de romans qui sortent, même si on prend simplement dans les grandes langues européennes. Donc, comment s'y prendre? Alors, d'une part, j'ai choisi de procéder par des études très précises. Et j'ai choisi comme auteur, non pas une liste de mes prédilections, mais des auteurs qui font l'unanimité, que ce soit nos auteurs favoris ou non, comme étant des étapes et des noms importants du roman du 19e et du 20e siècle. Donc, dans le premier volume, j'aborde Stendhal, Balzac, Victor Hugo, et puis j'ai voulu ouvrir aussi à d'autres littératures que françaises. J'aborde ensuite Virginia Woolf, Faulkner et Samuel Beckett. Et dans le deuxième volume, il y a la part du lion pour Gustave Flaubert et Henry James. Même si dans l'introduction, les conclusions, beaucoup d'autres auteurs sont cités et comparés. Donc c'est des auteurs qui font l'unanimité. Deuxième et dernière chose sur la méthode, c'est que j'ai trouvé nécessaire, après avoir posé la question général dans l'introduction, l'exposition de l'intime dans le roman moderne, j'ai trouvé nécessaire de suivre un fil conducteur formel. Parce que le sujet est immense, hein, on pourrait écrire 25 volumes là-dessus et on n'aurait pas fini d'épuiser la question. Donc, pour le premier volume, j'ai choisi comme fil conducteur le monologue intérieur, la pensée de quelqu'un qui nous est rapportée comme si nous l'entendions. Les critiques anglais parlent de citation mentale, ce qui est un paradoxe, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas citer ce qu'il y a dans votre esprit et que vous ne dites pas. Donc le monologue intérieur, qui évidemment a pris toute son ampleur dans la littérature du XXe siècle, mais qui existe déjà, dès le départ, dans le roman du XIXe siècle, Stendhal en particulier en fait un usage considérable, comme tout le monde l'a constaté. Et dans le deuxième volume, j'ai pris comme fil conducteur cette forme grammaticale et stylistique particulière, le style indirect libre, qui là se fait à la troisième personne. Par exemple, au lieu d'écrire « il pensait qu'il irait en tel endroit », j'écris « il irait là », etc. C'est libre parce qu'il n'y a pas de verbe introducteur, « il pensait que », « il se représentait que ». Et donc, ça a une fausse immédiateté. Vous voyez, on a l'impression de se glisser dans la conscience du personnage, d'être pris par elle, sans que pour autant ça soit ses propres mots. Alors, c'est une forme qui a aussi pris un très grand développement et qui, tout en étant une forme littéraire très travaillée, donne une impression d'immédiateté. On est dans la conscience, comme chez nous, en quelque sorte, et en même temps, esquive les difficultés qu'il y a. C'est pas les paroles même du personnage, c'est des paroles qui sont prononcées ou dites par un autre, le narrateur, qui peuvent aussi condenser, résumer, dire en une phrase ce dont la pensée occuperait beaucoup d'instants, et qui donnent beaucoup plus d'espace de jeu, qui permettent aussi que on puisse entrer dans la conscience d'une personne extrêmement fruste, sans beaucoup de ressources linguistiques, et pourtant de la décrire finement, sans pour autant avoir l'invraisemblance et le ridicule, de lui prêter tous les termes que le narrateur emploie. Mais alors, c'est ça qui permet aussi d'étudier la singularité des auteurs, en voyant quels usages très différents ils font de cette forme.
Alors, donc, vous nous dites, c'est effectivement clair dans votre introduction, qu'il y a, et c'est pour ça que je m'étais permis de m'appuyer sur cette pensée introductive de Madame de Staël que vous citez vous-même, qu'il y a donc quelque chose comme une mise à nu de l'intimité inédite, une exposition de ce qu'il y a de plus secret et l'empire croissant, de plus en plus manifeste, de la subjectivité. Vous allez même jusqu'à considérer qu'il y a quelque chose qui pourrait être considéré pour les anciens comme une forme de viol de conscience, enfin quelque chose qui me permet, moi romancier, de m'introduire dans la conscience des autres. Alors, il y a une question en filigrane de cela que vous indiquez au début, qui est celle de savoir si, et vous en avez parlé à l'instant, si cette lisibilité des secrets, ou cette prétention à la lisibilité des secrets, ou cette prétention à entrer dans la conscience de l'autre, n'est-elle pas, ou jusqu'à quel point l'est-elle, une manière de se prendre pour Dieu ? Et là, vous citez un débat, enfin, quelque chose qui existait entre Maritain et Mauriac. Maritain disant que, évidemment, ce viol des consciences, cette capacité à pouvoir... Même les anges n'ont pas accès à la conscience. Donc, on est bien dans quelque chose qui est prométhéen, si on le dit à l'ancienne, ou qui a la prétention de se prendre pour Dieu. Ou Mauriac, qui, lui, pense effectivement qu'il y a quelque chose qui s'ajoute, qui s'accumule, qui s'additionne quant à la connaissance humaine que nous avons. Alors, quelle est, selon vous, dans le roman moderne que vous étudiez, cette capacité-là, est-elle explicite ou pas, à se prendre pour Dieu d'une part ? Et deuxièmement, pensez-vous qu'il y a un effet de substitution du romancier pour Dieu ? Parce que vous citez en plus, à la fin, Flaubert, qui dit effectivement qu'il est dans son roman comme Dieu dans l'univers.
C'est une question évidemment très importante. Il faut distinguer vraiment très nettement et très clairement deux aspects. Il est vrai que le romancier se dote d'un attribut divin qui est précisément ce que j'appelle cardiognosie. Mais là, je ne fais pas du tout de polémique théologique contre le roman moderne, comme si je reprochais justement au romancier de se diviniser. Parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que ceci est purement et simplement fictif. C'est-à-dire que je feins de pénétrer jusqu'au tréfonds des consciences que moi-même, comme romancier, je construis. Donc, il n'y a pas lieu, en cet ordre, de pouvoir considérer comme Maritain que c'est une sorte de péché ou d'usurpation de Dieu, puisque, après tout, ça n'est que fictif, n'est-ce pas ? À moins de considérer que si j'imaginais faire quelque chose, c'est déjà l'acte lui-même. Si j'imaginais faire quelque chose dans un monde de fiction, vous voyez, si j'imagine que je vais tuer quelqu'un de réel, alors là, il y a déjà une intention homicide. Mais si je crée un personnage imaginaire et que j'imagine que je le tue, il faudrait être vraiment d'un scrupule et d'un puritanisme extrême pour considérer que ça fait de moi un meurtrier, n'est-ce pas ? Autrement, les enfants le seraient quand ils jouent, n'est-ce pas ? Et qu'ils jouent à faire semblant d'être morts. Donc, il n'y a pas du tout de question qu'il s'agisse d'une véritable usurpation d'un privilège divin. Il est simplement significatif qu'on éprouve le besoin précisément de cette transparence qui, auparavant, n'avait jamais été imaginée, ni même souhaitée. Alors, le deuxième aspect de la question, c'est que quand on pénètre, ou fin de pénétrer, ce qu'il y a d'absolument dérobé, d'absolument secret, d'absolument inapparent, même à la conscience de celui dont on parle. La question se pose de savoir si l'on dévoile des secrets, ou si en quelque sorte, on les constitue. On les crée à mesure qu'on les dévoile. C'est évidemment le cas pour le romancier écrivant son roman. Simplement, nous habituons en lisant des romans et en finissant par avoir ce besoin, à la transparence de la conscience d'autrui. Nous nous imaginons que, comme le dit bizarrement Virginia Woolf à propos de Walter Scott, que si par exemple je vois vos gestes et vos actes, si j'entends vos paroles, celles que vous tenez, celles que d'autres tenaient sur vous, on imaginait jusqu'à présent que savoir tout cela, c'était effectivement connaître quelqu'un. Et là, ça ne suffit plus. Pour que je puisse avoir l'impression de vous connaître, il faudrait dans ce cas-là que je vous visse en transparence. Alors, c'est ça qui a quelque chose d'une sorte d'hubris, comme on dit en grec, de démesure, mais qui n'est pas une démesure, blasphématoire, ou qu'il faudrait prendre comme une usurpation réelle d'un attribut divin, qui a un désir sans fin d'approfondissement et qui, à mesure que le roman évolue, s'exacerbe.
Il y a donc, selon vous, une sorte d'histoire continue du roman au travers des œuvres et des romanciers ?
Pour moi, l'histoire du roman du 19e et 20e siècle, elle est continue. Elle participe du même projet, même si elle fait une invention de forme remarquable et toujours changeante. Et donc, ce qui paraissait très profond dans une génération, où on avait l'impression que tel romancier avait approfondi précisément l'exploration de la conscience humaine comme personne ne l'avait fait avant lui, entre dans la conscience commune, entre dans les habitudes des romanciers, et 30 ans plus tard, apparaît comme trop superficiel. Vous voyez, cette passion de l'approfondissement, je ne peux pas développer ici sur des auteurs précis, mais vous voyez que évidemment, il y a quelque chose qui, dans Proust, va évidemment beaucoup plus loin que dans le roman des années 1880 ou 90, mettons, ou que dans Zola. Dans Zola, ou lui-même, il y a des choses qui outrepassent sur certains points, Balzac, etc. Donc, il y a une sorte de surenchère perpétuelle que je ne critique pas, qui fait partie justement de l'honneur et de la dignité du roman, dont je développe dans les conclusions générales, que précisément sa force est d'être non seulement le genre qui intègre tous les autres genres, parce que dans le roman, vous avez des romans faits tout entiers de dialogue, comme si c'était du théâtre, vous avez des romans qui ressemblent à une sorte de poème en prose, vous avez des romans qui usent de toutes les possibilités de la parole et de toutes les possibilités génériques, il y a des romans lyriques, il y a des romans tragiques, etc. Le roman moderne est non seulement ça, une sorte d'ogre, n'est-ce pas, qui dévore tous les autres genres pour s'en nourrir, mais aussi son lieu de réflexivité et d'autocritique permanente. Le roman ne se fiche pas dans des conventions définitives, il est toujours vigilant sur lui-même, c'est son honneur. Et cette vigilance, toujours croissante, elle se marque dans l'approfondissement toujours plus aigu des intimités de la conscience, voire de l'inconscient humain. C'est son honneur et non pas quelque chose qu'on pourrait lui reprocher.
Pourquoi justement avoir utilisé ce terme de cardiognosie ? N'est-il pas un terme qui laisse à penser qu'il y a un abîme à jamais inconnu du cœur ?
Disons que, à cet égard, sur la question de la cardiognosie, comme je dis, la thèse fondamentale de mon livre est que précisément, c'est pourquoi il ne s'agit pas de lui faire un procès, le roman qui s'est donné par convention, la facilité que la conscience d'autrui, même d'un autrui imaginaire, lui soit donnée en transparence, finit peu à peu, dans cette transparence même, par poser que la conscience, quand bien même nous pourrions y pénétrer, est abyssale, et par développer précisément un retour de la finitude de notre regard sur la conscience et de l'abîme de la conscience humaine. L'abîme de la conscience humaine, c'est pas une expression moderne, c'est une expression qui se trouve en toutes lettres déjà dans saint Augustin, mais précisément pour saint Augustin, cet abîme, il nous demeurait en quelque sorte en grande partie inaccessible et n'était accessible qu'au regard divin. Nous pouvions simplement découvrir que nous étions un abîme. Alors des romanciers comme Faulkner ou bien d'autres, mais peu avec autant de génie que Faulkner ou Henry James, entre dans cet abîme comme abîme, mais le laisse être abîme. C'est-à-dire que le romancier ne pourra jamais tout nous montrer, il nous montrera qu'on ne peut pas tout voir, n'est-ce pas ? Et on rejoint là un thème qui est bien connu des philosophes, la docte ignorance, n'est-ce pas ? Le fait que je sache que je ne sache pas. Alors il nous montre aussi, le romancier, qu'il ne peut pas tout nous montrer. L'épaisseur de ce qui restera impénétrable et irrévélé, prend justement dans la littérature, elle n'est pas une simple affirmation de principe, comme si je vous dis que la conscience d'autrui est impénétrable en son tréfonds, mais elle prend une sorte d'épaisseur d'épaisseur sensible et linguistique, qui est une des choses qui fait aussi tout le prix de la lecture des romans. Et donc, il y a dans le roman moderne une expérience de la conscience, dans tous les sens du terme. J'entends, on fait des expériences avec la conscience, littérairement, en se donnant des règles fictives de pénétration et de curiosité. Donc on fait des expériences avec la conscience, on construit des types de conscience inédits jusqu'à présent de la littérature. Vous voyez, par exemple, j'ai parlé de Faulkner, il y a les idiots faulkneriens. On a écrit des livres entiers là-dessus, des débiles mentaux ou des gens qui n'ont pas toute leur présence d'esprit. Dans d'autres formes littéraires, idiot au sens clinique, hein. C'était un objet soit de compassion, soit de rire, n'est-ce pas ? Mais pas un objet d'approfondissement intime. Je ne parle pas de l'idiot de Dostoïevski, qui relève d'une autre catégorie, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est ce que j'appelle des expériences avec la conscience, mais c'est aussi une expérience que nous faisons de la conscience, et que nous, lecteurs aussi, faisons de la conscience, et cette expérience de la conscience, de toutes ces consciences qui nous sont données à voir, finit par faire partie du tissu réel de notre vie. Parce qu'évidemment, je n'aurais jamais connu personne dans la réalité aussi bien que je connais les personnages de romans. On connaît mieux les frères Karamazov ou Madame Bovary, ou dans leur intimité ultime, que nous connaissons nos amis. Alors c'est une expérience vicaire, comme on dit, vicaire au sens que une expérience par substitution ou par délégation, qui finit par modeler aussi notre représentation et même notre vécu de la subjectivité réel, vous voyez ? Donc fiction et réalité, dans la représentation de la conscience, finissent par se mêler d'une façon qu'on ne peut séparer, qu'on ne peut trancher. Ce qui, du point de vue philosophique et historique, est aussi tout à fait passionnant.
Pour ceux qui vous suivent depuis des années, qui lisent vos livres, ces deux tomes semblent un peu surprenants, étonnants. Est-ce qu'il faut les considérer ? Parce que vous appliquez effectivement à lire de la littérature, vous avez à la fois une théorie, à la fois une lecture précise d'un certain nombre d'auteurs. Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est là une parenthèse dans le cadre de l'exploration des nouvelles figures de l'intériorité dont vous parliez au début ? Ou est-ce qu'il y a un effet de tournant, de changement, de modification de votre œuvre, de votre pensée, de la façon à laquelle vous appréhendez les choses, qui vous fait considérer la littérature et donc ce travail-là comme une nouvelle manière d'envisager ce que vous aviez fait préalablement ?
Alors, écoutez, je comprends la surprise que ça a pu provoquer. Il est vrai que pour autant que j'ai pu percevoir cet ouvrage qui est en somme le plus long que j'ai écrit, si on compte comme un unique ouvrage, même si les deux volumes peuvent se lire tout à fait séparément, chacun forme un tout. Donc j'ai senti la surprise que ça a pu provoquer chez certains. J'ai constaté aussi que c'est un livre qui semblait avoir été beaucoup plus étudié et pratiqué par les critiques littéraires et les professeurs de littérature ou ceux qui s'intéressent à la littérature, qui m'ont d'ailleurs invité pour en parler, que par mes collègues philosophes. Alors, ça parce que, voyez, si on est phénoménologue, qui est la dimension philosophique dont
on
réclame, alors on va aux choses mêmes. Et si on parle du roman, alors dans ce cas-là, il faut se plonger dans la chose même qui est l'écriture romanesque, les formes romanesques, les procédés romanesques. Et la chair du roman, si j'ose dire, c'est le grain des mots, c'est la construction, c'est la syntaxe, donc il faut l'analyser comme telle. L'ignorance n'est jamais la garantie d'une plus grande profondeur. Vous voyez, on peut résumer ce qu'on pense de Balzac ou de Hugo en quelques phrases, en ignorant parfaitement que nous ne sommes pas le premier à les aborder, et en croyant être original, ce qui est la prétention la plus ridicule, parce que la plus répandue, celle que tout le monde a, et donc si c'est celle que tout le monde a, elle n'est justement pas originale. Donc ça ne pouvait pas du tout être en ce domaine plus qu'en d'autres, ma manière de procéder. Donc je me suis plongé dans les choses mêmes, m'aidant aussi de mes prédécesseurs, alors sans vouloir raconter ma vie, mais il est vrai que tous les auteurs dont je parle m'étaient extrêmement familiers depuis des dizaines et dizaines d'années, depuis mon adolescence, vous voyez, j'en avais lu depuis 45 ans. En revanche, tous les critiques littéraires que je cite à ce propos, je n'en connaissais qu'une minorité, et je les ai lus précisément pour m'éclairer dans ma propre étude. Donc pour moi, il n'y a pas de rupture. C'est tout à fait dans la continuité de mes questions. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas vraiment décidé d'écrire ce livre. Les livres s'appellent les uns les autres, vous voyez. Quand on écrit son premier livre, alors ouais, oui, c'est très très compliqué. Mais ensuite, les questions irrésolues de l'un sont en nous plus vigilantes que nous-mêmes et veulent leur suite et leur réponse. Mais leur suite et leur réponse peuvent prendre des chemins que nous-mêmes n'avons pas prévus. Et la preuve qu'il y a pour moi tout à fait une continuité, c'est que justement, je suis en train de finir maintenant, c'est quasiment fini, le livre que je m'apprêtais à écrire quand le projet de Conscience et Roman s'est saisi de moi, et je dois le faire maintenant, précisément. Maintenant que je suis allé sur l'autre rive, je reviens à une rive antérieure, et les choses s'éclairent mutuellement, vous voyez. D'accord. Parce que même du point de vue historique, la longue durée et ce sans quoi on comprend finalement rien à rien, et par lequel on reste prisonnier des préjugés de son époque.
Alors j'ai une dernière question pour éclairer un peu nos auditeurs. Donc vous écrivez et vous lisez. On peut dire que vous êtes lecteur avant d'être écrivain, celui qui écrit. Question à la fois personnelle et à la fois générale. Quel lecteur êtes-vous? Et pour vous, qu'est-ce que cela veut dire, comme vous le faites ici, mais comme vous le faites depuis le début, qu'est-ce que cela veut dire de lire un auteur, de le regarder? C'est quoi cette opération de lecture qui vous est familière, qui ne l'est pas forcément pour tout le monde et qui ne l'est pas pour vous de la même manière que pour les autres?
Oui, alors c'est évidemment une question tout à fait fondamentale. Un penseur anglais du 19e siècle, pour lequel d'ailleurs je n'ai pas que de la sympathie, loin de là, surtout politiquement, mais disait cette chose que je trouve très juste et très profonde. Il disait que la meilleure chose que puissent faire des études universitaires, les plus grandes écoles, disait-il, étaient la même chose qu'avait faite notre toute première école, à savoir nous apprendre à lire. Et alors, évidemment, il y a lire et lire, n'est-ce pas? C'est pas simplement déchiffrer les syllabes. Et lire est un art. C'est un art qui, évidemment, a de multiples possibilités. La manière dont, par exemple, les pères de l'Église lisaient la Bible, laquelle a changé aussi au fil du temps, la manière dont les platoniciens ou les aristotéliciens de la fin de l'Antiquité ou du Moyen-Âge pouvaient lire Platon ou Aristote, qui est encore différente, sont des grandes leçons de lecture. Alors, je ne dis pas que ce soit les seules, mais il n'y a pas qu'une façon de lire. Et alors, phénoménologiquement, comme le dit magistralement Heidegger, qui a été repris par beaucoup d'autres, écouter, c'est déjà parler. Quand j'écoute, même si bien sûr je me tais physiquement, et même si je fais aussi une sorte de silence mental, n'est-ce pas, pour me pénétrer justement du propos d'autrui, je suis à cette parole, je suis dans cette parole. C'est pas que je m'absente de la parole quand je me tais, que j'écoute, j'y suis justement présent avec une intensité toute particulière. Et si écouter c'est déjà parler, voyez que c'est vrai aussi de lire. L'expérience de la lecture est une des expériences spirituelles et intellectuelles les plus hautes, voyez. Mais évidemment, on ne lit pas un poème comme on lit la critique de la raison pure. Il y a un art de lire différent à chaque fois. Mais l'un n'est pas moins exigeant que l'autre. Et ça n'est pas moins difficile de lire un grand poète, ou tout simplement un vrai poète, de façon à reconnaître ce qu'il dit, et ce que ça nous apporte, et ce que ça apporte du réel, que de lire un ouvrage de philosophie difficile. Je veux dire que ça demande la même patience, ça demande le même effacement, et ça demande aussi la même haute activité de discernement. Donc lire un livre de philosophie, c'est déjà penser, voyez.
En finit-on jamais à apprendre à lire?
À chaque œuvre, sa forme, c'est pourquoi on n'en finit jamais d'apprendre à lire. Parce que si bon lecteur que vous soyez, vous ouvrez un livre d'un auteur qui a quelque chose de neuf. Mais s'il a quelque chose de neuf, ça veut dire aussi qu'il a une écriture et une forme neuve. Aussi bien Balzac disait que Hölderlin, si différent soit-il, Hölderlin disait à chaque poème sa forme, et Balzac dit à chaque œuvre, donc à chaque roman, en l'occurrence sa forme. Il y a toujours quelque chose, quand on commence un livre qui n'est pas, comment dirais-je, banal, il y a une difficulté dans les premières pages, qui est une difficulté en quelque sorte d'accommodation, vous voyez. comme on dit, accommodation pour les yeux, ou comme un professeur qui fait passer des oraux, c'est très fatigant, bien qu'on dise que ça soit extrêmement agréable plus que des copies, parce que vous voyez toutes sortes de personnes se succéder, leur être au monde, leur manière de se tenir, de regarder, de parler, de prendre les choses est différente. Et alors, à chaque fois, il faut justement accommoder son regard et son attention à quelqu'un de différent. Alors, c'est pareil pour des livres, n'est-ce pas? C'est plus facile de prendre un livre, soit qui est tellement banal qu'on sait déjà toutes les conventions, soit qu'il y ait d'un auteur que nous connaissons bien et qui nous est d'emblée, on se met au diapason, en quelque sorte, tout de suite, mais un auteur nouveau est toujours déconcertant. Ce qui signifie que, justement, on n'a jamais fini d'apprendre à lire, car chaque ouvrage demandera aussi une attention neuve et singulière. Et ce qui sera ensuite un grand plaisir peut être au départ, enfin, comme une sorte de difficulté, accommoder son regard et son intelligence et son attention à ce que d'abord on ne maîtrise pas. Ce qui nous déconcerte, n'est-ce pas? Et lire est une opération à la fois d'appropriation, au sens que j'assimile ce qui m'est là donné. Mais pour assimiler, il faut d'abord l'avoir discerné et l'avoir aussi découpé, comme on découpe de la nourriture. Toute lecture segmente, n'est-ce pas? Fait des unités de sens. Alors on peut les faire bien ou mal, comme quand on explique un texte. Et en même temps, justement, la plus haute lecture, c'est celle qui, alors même que nous assimilons beaucoup de choses, que nous les faisons nôtres, que nous l'approprions, reconnaît ce qu'il y a dans l'œuvre, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit théologique, qu'elle soit poétique, qu'elle soit romanesque, ce qu'il y a d'essentiellement inassimilable, ce qu'il y a là-dedans qui excède toujours l'appropriation que moi, je peux en faire. Et il n'y a pas de plus belle expérience que de relire un ouvrage que nous avons déjà lu plusieurs fois. Étienne Gilson, le grand spécialiste de saint Thomas, disait qu'il avait enseigné saint Thomas pendant des années et des années devant toutes sortes d'auditoires. Et puis qu'un beau jour, en expliquant un de ses textes les plus classiques, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas vu et qui était fondamental. Mais nous pouvons tous avoir cette expérience. C'est ce qui signe les grandes œuvres, n'est-ce pas? De voir ce que dans une lecture précédente, il y avait des couches de sens ou des aspects tout à fait frappants qu'on n'avait pas saisis. Ce qui ne signifie pas que nos lectures étaient fausses, erronées, c'est pas forcément une correction, mais il y a toujours un surcroît. Et on peut relire toute sa vie sans avoir jamais épuisé une œuvre.
Justement, l'œuvre est inépuisable, dites-vous. Mais certains critiques littéraires semblent penser qu'ils tiennent, en quelque sorte, l'œuvre, qu'ils la dominent.
D'ailleurs, évidemment, l'appropriation du contenu par la lecture aurait quelque chose qui serait critiquable si elle ne maintenait toujours la différence du propre et de l'étranger. Et jamais on ne doit s'habituer à l'étrangeté des œuvres. On doit toujours la reconnaître comme étrangère et aussi, il faut bien l'avouer, comme plus haute que nous. C'est pourquoi elles doivent nous apprendre. Alors que ce qu'il peut y avoir de détestable parfois dans la critique littéraire, c'est que précisément le critique finit par être un tel expert qu'il se pense plus haut que Balzac ou Proust ou qui vous voudrez. Et si vous me permettez ce mot, il arrive que je sois dans les notes en particulier assez critique ou assez polémique, mais vous remarquerez que cette critique ou cette polémique est justement toujours contre des interprétations des auteurs dont je parle. Interprétations qui me paraissent réductrices, superficielles, aveugles. Et donc, si je peux être polémique, c'est au nom même de l'admiration et du respect, et en quelque sorte de défendre le surplomb sur nous, des grands romanciers, en l'occurrence.
Eh bien, nous resterons sur cette idée à la fois du surcroît et à la fois de l'inépuisable des œuvres. Et je renvoie donc nos auditeurs aux deux livres donc, qui ont fait l'objet de notre entretien de ce jour, donc Conscience et Roman 1 de 2009, La conscience au grand jour, et Conscience et Roman 2, La conscience à mi-voix, 2011, tous les deux édités aux éditions de Minuit. Et je renvoie nos auditeurs à une deuxième émission que nous allons faire avec Jean-Louis Chrétien et qui portera plus particulièrement sur Flaubert. Jean-Louis Chrétien, merci.